Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Toute cette semaine, en compagnie du géographe et historien Bernard Ourcade, je vous raconte la révolution iranienne de 1979 qui a conduit à la création de la République islamique, toujours en place aujourd'hui. 1979, Khomeini a-t-il volé la révolution iranienne ? Dans l'épisode précédent, nous avons vu le début de la révolution qui a conduit au départ du Shah en janvier 79. Pendant ce temps, un homme prépare son retour en Iran, l'ayatollah Khomeini, chef religieux chiite, qui en France, depuis sa modeste maison à Nofle-le-Château, organise à distance la révolution. Le 31 janvier 1979, tard dans la nuit, l'ayatollah Khomeini pénètre dans l'aéroport Charles de Gaulle, accompagné par une foule de sympathisants brandissant le portrait du chef religieux. L'homme qui fait trembler l'Occident, comme l'a écrit un hebdomadaire français. Le regard toujours impassible, le vieil homme de 77 ans, accompagné de sa famille et d'une cinquantaine de fidèles, remercie le peuple français et s'installe dans le salon des premières d'Air France, d'où il exige qu'on fasse sortir les hôtesses de l'air. À sa demande, la vente d'alcool et de cigarettes sera interdite pendant le vol.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Le lendemain, il est 8h30 quand l'avion atterrit à l'aéroport Mehrabad à Téhéran, là même d'où 2 semaines plus tôt, le Shah a fui l'Iran. L'émotion est intense. Depuis l'aube, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées autour de l'aéroport. On y prie, on y chante, on y pleure. Accueilli par une foule en liesse, Khomeini, dès son arrivée, demande à être conduit au cimetière des martyrs, lieu sacré des chiites. Sur les 20 km qui séparent l'aéroport du cimetière, une véritable marée humaine suit la voiture de Khomeini. L'armée a reçu l'ordre de ne pas intervenir. Le reporter Edouard Laure de la télévision française n'en revient pas.
Je ne pense pas être en mesure de trouver les mots pour vous décrire le spectacle auquel je viens d'assister. Les gardes du corps de Khomeini, obligés de monter sur le toit de sa voiture, et des dizaines, des centaines d'Iraniens devenu complètement fou, s'y agrippant, essayant de l'arrêter. Une foule, comme je n'en ai encore jamais vu, 4, 5 ou 6 millions de personnes. Cette fois, les Iraniens ont sans doute compris qu'un jour après le départ du Shah, ils tournent définitivement un chapitre de leur histoire avec le retour triomphal de l'ayatollah Khomeini.
Au cimetière des martyrs, Khomeini prononce un discours fleuve où il dénonce l'illégitimité du régime du Shah, les humiliations subies par les musulmans. Se référant habilement aux droits de l'homme, l'ayatollah en appelle au peuple et invite aussi l'armée à se rallier à lui. L'émotion est intense. Présent ce jour-là, l'écrivain Reza Bahareini, traducteur de Shakespeare en persan, opposant de longue date au Shah, écrit « Nous n'étions plus une foule, nous étions une seule respiration. L'Iran avait retrouvé sa voix. » 2 ans plus tard, cet écrivain sera contraint à l'exil par les islamistes. Tout va très vite. Le 11 février 1979, l'état-major de l'armée, qui décide de respecter les dernières volontés du Shah, éviter à tout prix de faire couler plus de sang, annonce la neutralité de l'armée. Le soir même, la radio iranienne annonce triomphalement « Ici la voix de la révolution islamique. Le régime du Shah vient de tomber. »
J'ai vu l'arrivée de Khomeini, c'était effectivement aussi exceptionnel qu'on vient de le raconter. Mais pour la première fois, j'ai entendu parler des comités d'accueil de l'imam Khomeini. Le mot « comité », qui était organisé depuis l'université de Téhéran, par l'ayatollah Talleyrani, pour effectivement organiser le pays. Et l'armée n'étant plus là, la police n'est plus là. Et on a vu pour la première fois, et j'ai été accosté par quelqu'un qui avait une veste battle dress, comme tout le monde en portait, me disant « qu'est-ce que vous faites là ? Vous prenez des photos, pourquoi ? Vous enregistrez, pourquoi ? Vous êtes autorisé à faire cela ? Mais qui êtes-vous, monsieur ? Je suis libre de faire ce qu'on veut. » La révolution a été faite. Je suis membre du comité d'accueil de l'imam Khomeini. Les gardiens de la révolution étaient déjà là. On voyait tout de suite qu'il y avait autre chose qui se passait. Quand Khomeini arrive, vous le disiez, il va de l'aéroport au cimetière, par le sud de Téhéran. Il devait passer, s'arrêter à l'université de Téhéran, qui était l'endroit où les libéraux étaient là, la gauche était là, le débat démocratique était là, la tendance républicaine de la République islamique était là.
Laïque
était là, avec le soutien du peuple. Et il devait y avoir ce mariage entre les deux. Khomeini ne s'est pas arrêté à l'université, il était directement au cimetière. le conflit entre ceux qui ont fait la révolution, les libéraux, la gauche, les gens pour le développement économique, et la structure religieuse classique iranienne chiite était déjà en conflit. Et on le voyait dès le retour de Khomeini.
Donc Khomeini ignore clairement l'université, les intellectuels, l'opposition de gauche. Mais comment, lui, est-il perçu par l'opposition libérale, justement, cette opposition de gauche? Est-ce qu'on pense encore qu'il est juste utile à la révolution pour rassembler les Iraniens? Ou est-ce qu'on voit déjà en lui un danger?
Pas de danger. Il a réussi. Il a fait partir le chat, ce qui était la priorité absolue. L'angoisse que l'on vivait dans ces mois-là était vraiment inquiétante. Qui va gouverner le pays? Guerre civile? L'armée va prendre le pouvoir? Loi martiale? Massacre dans les rues? Non, Khomeini arrive, l'armée se retire. Et donc Khomeini, on connaît, c'est un religieux, c'est un ayatollah. Quelqu'un, le mollah du coin, je le connais bien. Donc, une assurance de certaines paix sociale, qu'il n'y a pas de guerre civile. Donc, tout le monde soutient, pour aujourd'hui au moins, ce monsieur qui vient de Paris, qui, ma foi, peut faire l'affaire pendant un certain temps.
En février 1979, avant même la proclamation officielle de la République islamique, une des premières mesures annoncées par Khomeini à son retour en Iran est d'appeler les femmes iraniennes à se couvrir la tête et le cou d'un voile. Le 8 mars, journée internationale des femmes, et les jours suivants, des milliers d'Iraniennes de tous âges, voilées ou pas, manifestent dans les rues de Téhéran contre cette injonction. Des féministes françaises du MLF ont fait le voyage et tournent un film sur ces manifs.
À l'aube de la révolution, les femmes sont oubliées. Nous sommes des femmes iraniennes, nous ne resterons pas enchaînées. Sans la libération des femmes, la révolution n'a aucun sens. D'autres slogans: nous ne voulons pas de voile obligatoire. Les femmes luttent et leurs luttes sont victorieuses. La police a tiré des coups de feu en l'air et essayé de les faire reculer. Les femmes ont crié: nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur.
J'ai 6 filles et je suis venue pour que mes filles ne soient pas obligées de mettre le tchador, pour que les hommes ne l'obligent pas à le mettre. Je suis venue ici pour défendre mes filles contre le tchador.
Mais ces femmes ne seront pas entendues. Le 1er avril 1979, la République islamique est proclamée. Et le même jour, le Conseil islamique révolutionnaire amorce un retour en arrière sur les libertés individuelles, à commencer par celle des femmes. La ségrégation des sexes est instaurée et les femmes écartées des fonctions publiques. Le voile islamique devient obligatoire pour toutes les Iraniennes dès l'âge de 9 ans. 4 ans plus tard, une peine allant jusqu'à 74 coups de fouet sera prévue pour les contrevenantes. 40 millions d'Iraniennes sont désormais sous étroite surveillance. Pourtant, en 1978, Khomeini avait multiplié les messages rassurants. Les femmes seront complètement libres dans leur éducation et dans tout ce qu'elles feront, tout comme les hommes dans la République islamique, avait-il dit à des journalistes allemands. Et il déclarait également au journal britannique The Guardian: les femmes sont libres de choisir le mode vestimentaire qu'elles désirent. Bernard Ourcade, est-ce qu'on peut dire que Khomeini et le clergé chiite sont des imposteurs, qu'ils n'ont fait que mentir sur leurs véritables intentions, qu'ils ont volé la révolution aux Iraniennes et aux Iraniens?
Non, je vais me faire tirer beaucoup de foudre, mais cette question des femmes est très importante parce qu'elle montre le clivage qu'il y a dans la révolution islamique. Entre, d'un côté, une force populaire traditionnelle, le chiisme, où les femmes ont un tchador sur la tête, c'est classique, même à l'époque du chat, les femmes portaient ce vêtement d'un milieu populaire, et une autre société, il y avait une coupure sociale. Et ce qui est important, c'est que Khomeini était opposé aux religieux traditionnels. Et pour pouvoir être accepté, il a fallu qu'ils disent: mes chers amis, vous étiez pour le chat, désormais avec moi, les femmes auront un tchador, elles sont toutes en voile. Puis vous aurez l'argent du pétrole pour les écoles religieuses. Donc Khomeini a tourné son regard vers les traditionnalistes religieux, vers tous les clergés traditionnels qui étaient opposés à la révolution, opposés à l'idée de république. Et Khomeini a dit: non, république, mais je vous fais des concessions. Le problème, c'est des femmes qui ont payé ces concessions. Mais autre chose très importante...
Ouais, il a menti quand même sur ses promesses.
Non, parce que sur les femmes... La famille de Khomeini, de sa femme en particulier, est une famille où les femmes ont une place importante. La fille de Khomeini est la première femme à avoir un master de philosophie à l'université. À l'époque du chat, les femmes n'avaient pas le droit de faire des études de philosophie. Mais elles avaient un tchador sur la tête. Khomeini n'a pas menti en disant « les femmes vont être libres ». Elles ont parti dans les écoles avec leur tchador noir pour enseigner dans les écoles, des milieux populaires, et dont elles ont appris le Coran, les religions traditionnelles, mais aussi les mathématiques, la physique et les relations internationales. Résultat, 30 ans après, 40 ans après, c'est Mahsa Amini, les petites filles de ces révolutionnaires qui ont été en tchador, qui ont été à l'école, qui sont révoltées en disant à Roménie ou à son successeur, comme on l'avait dit en 78-79, nous sommes maintenant libres, on voudrait un peu plus de liberté politique.
Merci Bernard Urca. Dans le prochain épisode, nous verrons comment la révolution iranienne va prendre un nouveau tournant, encore plus radical, avec la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran et l'affirmation de ceux qu'on appelle les gardiens de la révolution.